chers amis, chers camarades, au nom de tous les militants et sympathisants de lutte ouvrière, je vous souhaite à notre fête bienvenue, à notre fête annuelle à laquelle notre camarade Jean-Pierre Mercier, porte-parole national de Hello, nous fait le plaisir de participer et il animera à 16h30 un débat. Mais avant de passer à table, je voudrais vous dire quelques mots. Dans 2 mois et demi, il y a la présidentielle à laquelle nous présentons notre camarade Nathalie Arthaud. Puis il y aura en juin législative où nous serons présents dans toutes les circonscriptions du pays. Et moi-même, comme en 2012, je serai candidat à MES 2. À travers ces 2 campagnes électorales, nous voulons que s'exprime le camp des travailleurs. Des travailleurs, certes exploités, mais pas victimes. Des travailleurs fiers de faire tourner la société, fiers d'être ceux qui sont à la base de tout. Car toute la société repose sur nos épaules. Que l'on soit ouvrier, employé, technicien, ingénieur, caissière de supermarché, éboueur, infirmière, aide-soignante, postier, enseignant, agriculteur, artisan ou petit commerçant, sans nous, rien ne fonctionnerait, rien ne serait produit ni créé. Alors nous pouvons être fiers d'être de cela, d'être de ceux qui n'occupent pas des emplois fictifs, comme Pénélope Fillon, qui a affirmé il y a quelques années dans une interview n'avoir jamais travaillé pour son mari, mais qui a tout de même empoché près d'1 million d'euros à ne rien faire. Nous voulons permettre au monde du travail d'affirmer les exigences vitales en votant lutte ouvrière. Face à tous ces candidats qui n'ambitionnent qu'une chose, arriver au pouvoir pour servir ceux qui dominent la société, la bourgeoisie. Dans n'importe quelle entreprise, qu'est-ce que cela changerait si on pouvait élire le PDG? Qu'est-ce que cela change, qu'il soit de droite ou de gauche, du moment que c'est la logique du profit, la logique du capitalisme qui est en fait aux commandes? Le candidat qui sera élu au second tour sera au service du système capitaliste. Mais il est important que s'expriment au premier tour ceux qui contestent le capitalisme. C'est pour cela que nous appelons à faire un vote pour des candidats communistes, des candidats du mouvement ouvrier, des candidats qui n'ont jamais semé l'illusion qu'un sauveur suprême changerait leur sort, qui s'appelle Mitterrand, Jospin, Hollande, ou aujourd'hui un mot. Il faut mettre fin au chômage. Et c'est un drame pour ceux qui en sont victimes et un malheur pour toute la société. Il n'y a pas d'autre choix que de répartir le travail entre tous, sans baisser les salaires, évidemment. Alors, est-ce utopique? Mais non. Donner un travail avec un salaire net de 1 800 euros par mois aux 6 millions de chômeurs, cela coûterait 230 milliards. C'est beaucoup? Certes, mais le coût du chômage est estimé à 100 milliards. Alors, s'il n'y avait plus de chômeurs, ce serait 100 milliards d'économiser. Et l'argent dégouline de partout dans notre société. Les 100 plus grosses fortunes du pays ont un patrimoine de 327 milliards. Les dividendes versés aux actionnaires des 40 plus grosses entreprises du pays se sont montés à 56 milliards. Et l'État donne chaque année au titre du CICE 20 milliards aux patrons, et cela ne crée aucun emploi, alors que ça permettrait de rémunérer 1,5 million de salariés. Alors, oui, supprimer le chômage est possible. C'est une question de rapport de force. Il s'agit d'imposer au patronat de prendre sur ses profits actuels et sur ceux accumulés depuis des décennies pour faire que chacun ait un salaire correct et un emploi. Et bien évidemment, il faut mettre fin au licenciement. Il y a des annonces, ces annonces brutales et massives de licenciement, comme celle du groupe Neuser. Il veut supprimer 370 emplois, dont 260 à Fauche-du-Lair. Neuser pleure qu'il a perdu un gros contrat avec Lidl, et hop, il jette par-dessus bord des centaines de salariés. Mais l'ancien patron de Neuser a une fortune de 200 millions et un revenu annuel de 8 millions. Le nouveau propriétaire, la famille Soufflet, la plus riche famille de Champagne-Ardenne, un patrimoine de 600 millions. Et la fortune de ces deux familles permettrait de payer le salaire des 370 salariés en les augmentant de 1 800 euros net, cotisations et charges sociales comprises, pendant plus de 56 ans. Alors, qui a le plus besoin de quoi ? Les salariés de leur salaire ou les actionnaires de leur fortune ? Poser la question, c'est y répondre. Les licenciements ne sont jamais justifiés par rien d'autre que la volonté de faire plus de profit, et il faut absolument les interdire. À l'usine Renault Sauvable de Batilly, où je travaille, nous avons battu tous les records l'an dernier. Renault est gavé de profit, et son PDG Carlos Ghosn se goinfre de 45 000 euros tous les jours. Oui, vous avez bien entendu, tous les jours, il gagne ce qu'un ouvrier payé au SMIG met 4 ans à gagner. Autrement dit, Ghosn gagne en un jour ce qu'un ouvrier au SMIG gagne en 1460 jours. Et c'est encore aux ouvriers que la direction veut imposer de nouveaux efforts. Renault veut augmenter la productivité, faire en sorte que chaque salarié produise le double aujourd'hui. Alors Renault ne compte pas vendre deux fois plus de véhicules, mais s'il peut se débarrasser de la moitié du personnel pour produire autant, ce sont des profits supplémentaires en perspective. Quant à ceux qui garderont leur travail, ce sont nos muscles, nos tendons, nos articulations qui seront bousillées prématurément par l'aggravation des charges de travail. Alors il n'y a aucune raison d'accepter les nouveaux reculs que le patronat nous prépare à Renault comme ailleurs. On marche sur la tête. Il y a 6 millions de chômeurs et les suppressions d'emplois continuent, comme chez EDF, dont l'État est actionnaire et qui prévoit 7 000 suppressions d'emplois dans les années qui viennent. EDF nous dit qu'il est dans le rouge. Mais pourquoi ? Où va l'argent que nous payons pour avoir l'électricité ? Dans quelle poche il atterrit ? De combien s'enrichissent les entreprises sous-traitantes et les fournisseurs d'EDF ? La seule façon de le savoir serait de faire la transparence sur les comptes de l'entreprise et des sous-traitants. Techniquement, ce n'est pas très compliqué. Les travailleurs, d'ailleurs, ont les moyens de tout savoir, de tout contrôler, car tout passe par des secrétaires, des employés, mais tout est couvert par le secret commercial, le secret des affaires. Ce secret des affaires, les patrons y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, car il permet de masquer la réalité des choses, de prétendre que telle entreprise est en difficulté, alors que les profits sont en fait détournés au sein d'une autre, de faire apparaître les profits ici, parce que cela, ça les arrange. Bref, de maquiller les comptes selon leurs intérêts. Les deux lanceurs d'alerte lorrains, Raphaël Allais et Antoine Deltour, employés par la société de conseil PwC au Luxembourg, ont été traînés devant les tribunaux luxembourgeois pour avoir dénoncé les petits arrangements entre le fisc et les multinationales pour payer le moins d'impôts possible. Mais c'est Jean-Claude Juncker, le Premier ministre luxembourgeois, devenu président de la Commission européenne à l'époque des faits, qui devrait être sur le banc des accusés. Juncker impose la rigueur aux pays comme la Grèce, qui voudrait desserrer les taux de l'austérité qui les étouffe, mais il permet aux multinationales de ne pas payer d'impôts dans son propre pays. Voilà à quoi sert le secret des affaires. Non seulement à camoufler les combines des multinationales, qui coûtent aujourd'hui au budget de l'État 80 milliards par an, mais surtout à masquer l'exploitation du monde du travail, source de l'enrichissement sans fin d'une bourgeoisie aussi avide qu'irresponsable. En ce qui concerne les travailleurs, j'ai parlé de 1800 euros de salaire net. Eh bien, lui, aucun salaire, aucune pension de retraite, aucune allocation ne devrait être inférieur à cela. Faites le calcul. À moins, on ne s'en sort pas. Certaines bonnes âmes, souvent très bien payées, nous expliquent parfois que c'est complètement utopique et que cela forcerait nombre d'entreprises à mettre la clé sous la porte. Nous parlons de 1800 euros et on nous parle d'utopie. Ce serait de l'utopie d'espérer de vivre sans avoir à compter le moindre euro? Ce serait de l'utopie d'espérer pouvoir se chauffer, payer les factures, payer les études à ses enfants? Mais tous ces milliardaires, les 8 qui possèdent autant que la moitié de l'humanité, ils ne vivent pas dans l'utopie. Ils vivent dans le monde réel, dans notre monde. Alors dire que 1800 euros, c'est de l'utopie, c'est un choix de classe. La seule utopie dans cette affaire, c'est de croire que l'augmentation des salaires pourrait venir d'une élection ou qu'il suffirait de changer de monnaie pour augmenter notre pouvoir d'achat. Que ce soit en euros, en francs, en dollars, en yuan ou en livres sterling, le patron verse des salaires minables et il faudra lui imposer de les augmenter de 300 euros par mois. Après avoir déclaré en 2012 que son ennemi était la finance, le candidat du PS a trouvé un nouveau gadget. Hamon a lancé l'idée d'un revenu universel qui mettrait en place d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire en 2022. La promesse concrète qu'il fait, s'il la tient, c'est de donner le RSA aux jeunes chômeurs de 18 à 25 ans, ce qui est également dans le programme de Valls. Les socialistes jouent les dames patronesses qui font la charité. Mais ce n'est pas la charité que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est un salaire et un emploi. Certains sont tentés par Mélenchon qui tape du poing sur la table et qui est en colère contre tout le monde. Mélenchon reprend les intonations de Georges Marché, le dirigeant du PCF, qui a mis son parti à la remorque du politicien bourgeois Mitterrand, un de ceux qui avaient mené la guerre d'Algérie. En 1974, le Parti communiste, qui représentait alors plus de 20% de l'électorat, s'est effacé derrière Mitterrand, en ne se présentant pas à la présidentielle. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois, il l'avait déjà fait en 1965. On comprend pourquoi Mélenchon admire tant Mitterrand. Le PCF a perdu une bonne partie de son influence et de ses militants dans cette politique électoraliste, comme il a distillé le poison du nationalisme, et il continue de le faire en appelant à voter pour un autre politicien, Mélenchon, un Mitterrand au petit pied qui ne masque pas son mépris, ni pour le PCF, ni pour ses militants. Mélenchon, c'est la France insoumise. Ce n'est pas le camp des travailleurs. Et son nationalisme, qui s'affiche dans le titre de son mouvement et dans sa politique, c'est à l'opposé d'une valeur fondamentale du mouvement ouvrier, l'internationalisme. Qui serait tenté de voter pour Le Pen sous prétexte qu'on ne l'a jamais essayé, il se trompe lourdement. On a vu dans le passé où mène le vote pour l'extrême droite. Le Pen est une admiratrice du bouffon milliardaire devenu président des États-Unis, Donald Trump. Pas la peine d'essayer Le Pen pour voir de quel bord elle est. Celui des milliardaires, pas celui des opprimés. Le Pen ne rêve de gérer les affaires de la bourgeoisie tout en tentant de diviser les travailleurs en fonction de leur carte d'identité, de leur religion ou de leur couleur de peau, pour le plus grand bien des patrons. Comme elle a dit récemment, elle ne veut pas augmenter le SMIC si cela coûte de l'argent au patronat. Alors voter Le Pen pour un travailleur, ce serait se tirer une balle dans le pied. Notre sort ne dépend pas de l'élection du président de la République. Il faut en finir avec cet électoralisme qui a entraîné le monde du travail dans de fausses espérances et de vraies illusions. Rien ne dépend de la tête du futur président. Tout dépend du rapport de force dans la société. Les travailleurs représentent une force considérable, mais elle ne se situe pas dans les élections. Elle est due à leur place, à leur rôle dans la société. Parce que nous sommes communistes, nous croyons dans la force et dans la capacité du monde du travail. Et nous appelons les travailleurs à voter pour leur camp, à affirmer le camp des travailleurs, à affirmer leurs intérêts de classe devant tous ces politiciens bourgeois. Alors, je vous demande au premier tour de la présidentielle, le 23 avril prochain, de voter et de faire voter pour notre candidate Nathalie Arthaud. Et aux législatives, votez pour les candidats de lutte ouvrière, car nous serons présents dans toutes les circonscriptions du pays. Voter, ce n'est qu'un geste. Mais ne pas voter, ce serait se taire. Et voter pour les politiciens bourgeois, c'est lécher la main de qui nous opprime. Voter lutte ouvrière contribuera à renforcer le camp des travailleurs. C'est un vote qui aidera à la construction d'un parti ouvrier communiste révolutionnaire qui manque tant. Au-delà du score électoral, toutes les discussions que nous pourrons avoir seront utiles parce qu'elles auront fait réfléchir et fait avancer parmi les nôtres des idées dont nous aurons besoin tant quand, tôt ou tard, des luttes puissantes et massives se produiront. Nous ne pouvons pas compter sur les médias pour relayer ces idées. À chacun d'entre nous de s'en emparer pour les diffuser autour de lui. Et les périodes électorales sont propices au débat et à la prise de conscience. Voilà ce que je voulais dire entre l'apéritif et le repas. Et comme il est de coutume dans nos fêtes, tout particulièrement en ces temps de montée des idées nationalistes, réactionnaires, communautaristes, je vous invite à chanter le chant des luttes des travailleurs qui affirme par-dessus toutes les frontières, les barrières, les différences de couleur de peau ou de religion, que les travailleurs doivent s'unir. Je vous propose donc de chanter l'International.
Debout les damnés de la terre, debout les forces de la faim, la